Vous savez peut-être que la figure du fantôme fascine plus que jamais. Combien de sites, de chaînes YouTube et autres podcasts consacrés au paranormal. Combien de chasseurs de fantômes pour le simple plaisir du frisson, du mystère et peut-être un peu plus. Je pense à cette scène fondatrice des Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë au tout début du roman, quand le très londonien Lockwood, bousculé par l'accueil brutal et bestial des gens du pays, se retrouve dans une chambre hantée. On ne sait plus si c'est un rêve ou la réalité. Quelqu'un ou quelque chose frappe à la fenêtre et quand il essaie d'y voir de plus près, il est agrippé par une main glacée et il entend cette voix qui lui dit « Let me in, let me in, laisse-moi entrer ». Alors évidemment, Lockwood s'enfuit, mais le maître de maison reste dans la pièce, lui, et il supplie le fantôme de revenir. Cette scène extraordinaire des Hauts de Hurlevent, en plus du frisson et du mystère, elle dit quelque chose de troublant sur les fantômes, qu'ils font peur en même temps qu'on les désire. C'est pour ça qu'ils nous hantent, c'est parce qu'on les désire. Et vous savez que cette scène, la chanteuse Kate Bush en a fait un tube qui s'appelle « Wuthering Heights », que vous connaissez toutes et tous et qui donne voix au fantôme des Hauts de Hurlevent, qui dit « Let me in through your window, laisse-moi entrer par la fenêtre, dis-moi ton fantôme, je te dirai qui tu es. »
Boomerang, boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Par quel fantôme mon invitée d'aujourd'hui est-elle hantée? Elle est écrivain, lauréate du Goncourt du premier roman il y a 9 ans pour Corps volatile. Son 5e livre, L'avancée de la nuit, va vous éblouir et vous allez le dévorer en ces fêtes de fin d'année. Une histoire d'amour faite de contretemps, avec en toile de fond un monde inquiet et inquiétant. Bonjour Yakuta Alikavazovic.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être là. Quels sont les fantômes qui vous hantent?
Il y en a un certain nombre. J'y pensais parce que je suis très accompagnée, mais en ce moment, c'est sans doute... c'est sans doute le fantôme d'Amélia, du personnage, de l'un des deux personnages principaux de l'Avancée de la nuit. On a un rapport étrange au personnage, moi j'ai un rapport, comme écrivain, un rapport étrange à mes personnages, puisqu'ils m'accompagnent, le livre est fini, et pourtant ils sont encore là, je les sens encore un peu. Puis ensuite je leur dis au revoir. Un fantôme, c'est souvent un fantôme qui se présente à la fenêtre ou à la porte. C'est souvent quelqu'un qu'on ne connaît pas et qu'on aurait aimé connaître, ou quelqu'un qu'on a beaucoup aimé. Et c'est sans doute aussi quelqu'un avec qui on n'a pas fini entièrement quelque chose encore.
Il y a des fantômes littéraires de romancières ou de romanciers qui vous hantent également?
Des fantômes littéraires, il y a le grand maître spectral Henry James, l'auteur du Tour des Crous, peut-être la plus belle histoire de fantômes, parce que justement c'est ambigu, on ne sait jamais si c'est une histoire de fantômes ou une histoire de folie personnelle, intime. Et il y a quelque chose dans ce rapport à l'intime de ces fantômes qu'on est les seuls à voir et qui pourtant sont là avec nous, qui me touchent énormément.
On comprend qu'ils sont centraux chez vous, ce sont des catalyseurs d'écriture?
Oui, absolument. Absolument. C'est-à-dire, l'écriture est là pour faire apparaître certains fantômes. Alors je parlais d'Amélia, mais c'est aussi des fantômes... collectif, ça peut être le fantôme d'un pays, l'ex-Yougoslavie en ce qui me concerne, puisque c'est de là que mes parents sont originaires. Il y a tout un éventail de possibilités fantomatiques.
Il y a des fantômes, effectivement, dans l'Avancée de la nuit, votre roman, des personnages habités par le passé, une héroïne d'une autre romanesque d'Amélia Dare. Par quel spectre est-ce qu'elle est habitée, elle?
Amélia Dare, elle est habitée, c'est quelqu'un de... qui a tout pour être regardée et qui refuse d'être regardée. Et elle se tourne vers une partie de son histoire qu'elle connaît mal. Elle se tourne vers le fantôme de sa mère. C'est une jeune femme qui a grandi sans mère, dont la mère a disparu à Sarajevo pendant le siège de la ville dans les années 90, qui était poétesse. Donc ça, c'est un fantôme d'un genre un peu particulier, puisque quand même il y a quelque chose de tangible qui reste. Il y a de l'écrit, il y a de la parole. Et Amélia fait ce qui est peut-être la grande erreur de sa jeunesse, elle refuse cet héritage-là, elle refuse de lire ce que sa mère a écrit, et elle se retrouve avec juste un fantôme qu'elle essaye de faire apparaître. Je ne sais pas si elle y arrive vraiment.
Quand vous pensez à l'ex-Yougoslavie, à Sarajevo, Yakuta Alikavazovic, qu'est-ce que vous voyez, vous?
Moi, je vois Sarajevo, c'est une ville que j'aime énormément, à laquelle je suis très attachée, que je connais bien, puisque une partie de ma famille y vit encore, y était pendant la guerre, y vit maintenant. Et c'est une ville où je suis toujours très joyeuse.
Ce qui voit Amélia, votre personnage, c'est l'obscénité de la reconstruction, l'effacement comme crime, comme continuation de la guerre par d'autres moyens. C'est ce que vous écrivez. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Oh, ce que je veux dire, c'est ce qu'Amélia veut dire, parce qu'Amélia n'a pas exactement le même état d'esprit, le même tempérament que moi.
Certes.
Et Amélia cherche, je crois, la destruction partout. Alors que moi, je suis d'un naturel un peu plus lumineux tout de même.
Ce qu'elle dit, c'est qu'on fabrique de l'oubli, quand même.
On fabrique de l'oubli parce qu'on a... Et c'est bien naturel, c'est bien compréhensible. On veut s'éloigner des zones de difficulté, des zones difficiles de nos histoires collectives, et peut-être reprendre le fil d'une existence comme si de rien n'était. Et ça, c'est impossible. Quelque chose a eu lieu dont il faut quand même rendre compte.
Les plaques commémoratives, les monuments aux morts, ils servent à quoi?
Selon Amélia, ils servent justement à ce qu'on puisse ne pas penser à ce qu'ils sont là pour commémorer. Alors, je ne sais pas. Et peut-être d'autres façons, effectivement, de garder un souvenir vivant, actif. Je pense que la littérature en est un.
Ce sont des questions passionnantes, hein, Yakuta Alikavazovi. Comment on fait, dans un monde qui tend à vouloir effacer les traces du passé? Comment on fait pour se souvenir?
De toute façon, on n'a pas le choix. On se souvient, personnellement et intimement, on se souvient. Ensuite, collectivement, je pense qu'on lit et je pense qu'on écrit. Moi, c'est ma réponse à moi, parce que moi, je suis écrivain.
Ça n'est pas une solution naïve pour vous?
Je ne sais pas. Je trouve qu'il y a une certaine beauté, une certaine droiture à une forme de naïveté de nos jours.
Amélia Dare, votre héroïne, elle a une mère qui a tenté par tous les moyens, vous le disiez, et d'abord par son art, d'arrêter la guerre avec des mots, justement. Vous écrivez, elle était persuadée que l'échec du processus de paix était son échec, l'échec de sa poésie, de la poésie tout entière. Je suppose que c'est à ce moment-là qu'elle a perdu la tête, qu'elle a arrêté d'écrire. Et je me pose la question, qu'est-ce qui détermine pour vous l'échec ou la réussite d'un texte? Yakuta Alikavazovic.
C'est une très bonne question. Je ne suis pas sûre de savoir y répondre. Un texte, c'est à la fois, quand on l'écrit, c'est tout. Et puis ensuite, on ne sait pas ce que ça devient, parce que ce sont les lecteurs qui lui donnent vie et qui lui donnent corps.
Peut-être ne pas être lu.
Ne pas être lu, c'est une forme de silence pour un texte, et c'est regrettable. L'avantage de la littérature, c'est encore une fois, c'est comme une bouteille à la mer, c'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où peut-être même presque par hasard ou par accident, hop, le génie est révélé, sort de la bouteille pour un lecteur, plusieurs lecteurs, des milliers de lecteurs, on ne sait pas ça.
Pourquoi vous écrivez, vous ?
Ah, moi j'écris parce que c'est le moment où je m'oublie le plus, mais c'est aussi le moment où je suis le plus moi-même. Et c'est un très beau moment. Pour moi, c'est le matin, très tôt. Et c'est un moment qui m'est cher dans ma journée.
Et qu'est-ce qui pourrait vous faire arrêter?
Qu'est-ce qui pourrait me faire arrêter? Je ne sais pas, j'espère rien.
Celle qui parfois a son corps défendant, nous donne envie de tout arrêter, c'est la culture, vous la connaissez, son actualité désespérante, mais pleine de bonne volonté. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mardi 12 décembre? Que les princes soient avec vous, ce soir Londres accueillera l'avant-première européenne du 8e épisode de la saga Star Wars, Les Derniers Jedi. Et l'événement promet d'être autant sur le grand écran que sur le tapis rouge. En effet, les princes William et Harry seront de la partie car ils ont joué dans le film, enfilant pour quelques scènes le fameux costume de Stormtroopers Royal.
Pourquoi j'ai écrit ce livre? Parce que moi, je me suis aperçue qu'il y avait des parties de mon histoire que je ne pouvais plus raconter à personne. Parce que les amis avec qui j'avais partagé cette histoire n'étaient plus là.
Veni Vidi Lebovici, l'historienne de l'art Elisabeth Lebovici, qu'on entend ici au micro de l'ami Demorand, a reçu hier le prix Pierre Dex pour son ouvrage « Ce que le sida m'a fait, art et activisme à la fin du XXe siècle », un livre remarquable qui témoigne de la créativité née de l'urgence de vivre et du combat pour la reconnaissance de chacun dans les années 80 et 90 en France comme aux États-Unis. Looking so beautiful, I don't deserve this, darling, you look Who Run the World, c'est un nouveau Beyoncé. 10 ans que la star de R&B n'avait plus été numéro 1 du Billboard américain. C'est désormais chose faite grâce à son duo Perfect, signé avec la machine à tube britannique Ed Sheeran. Le nouveau morceau a enregistré près de 180 000 téléchargements en une semaine et près de 55 millions de clics sur YouTube. You go girl! « tous en salle en Arabie Saoudite. Après 35 ans d'interdiction, le ministère de la Culture du Royaume Wahhabite a annoncé hier qu'il allait autoriser l'ouverture de salles de cinéma dans le pays dès le début de l'année 2018. Une décision qui s'inscrit dans un vaste plan de réformes économiques et sociales, quelques semaines seulement après que le pouvoir a autorisé les femmes à conduire dans le pays. Et la jeune romancière Yakuta Alika Vazovic, invitée de Boomerang ce matin pour son roman L'Avancée de la Nuit, un roman d'amour, je le disais, celui d'une rencontre entre un homme et une femme qui ne viennent pas du tout du même milieu et qui n'ont pas le même rapport à l'histoire familiale. Le personnage masculin, lui, il veut rien connaître de son passé, pas même la langue que parle son père. On ne sait pas d'ailleurs de quelle langue il s'agit. Qu'est-ce qui se joue pour vous dans la transmission d'une langue ?
Ah oui, Paul est dans une situation un peu particulière. Moi, j'ai la chance de connaître la langue de mes parents, qui est ma langue maternelle, qu'on appelait le serbo-croate quand j'étais enfant, qu'on appelle maintenant le bosnien. Ce qui se joue dans la transmission d'une langue, c'est peut-être avant tout une transmission de l'affection. Parce que il y a des petits mots, ces petits mots doux que les parents disent à leurs enfants et que mes parents ont entendu dès leurs, qui m'ont dit ensuite dans leur langue à eux, que j'espère moi aussi transmettre à un moment donné. Je pense que c'est l'une des premières choses qui se joue, à vrai dire.
Mais alors, quand des parents refusent leur langue maternelle à leurs enfants, de quoi ça témoigne ?
Je pense que, du moins dans le cas de Paul, ça témoigne d'une volonté de son père de le mettre à l'abri de quelque chose. C'est quelqu'un qui est parti, qui a quitté son pays d'origine. On ne quitte jamais son pays d'origine le cœur léger, je pense. J'en suis sûre même. Et c'est quelqu'un qui a coupé momentanément ce lien de transmission pour mettre son fils à l'abri. Et une fois que le danger est passé, il semble passé, il renoue ce fil de transmission avec sa petite fille. Alors c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire, parce que ça me plaisait. Bon, il y a une génération qui est sautée dans la transmission, mais ça ne veut pas dire qu'elle est défaite, ça ne veut pas dire qu'elle est déliée.
C'est un livre sur le langage, quand même, L'Avancée de la Nuit. Et en réalité, vous parlez trois langues. Le serbo-croate, vous le disiez, que vous ont appris vos parents et qui n'est plus aujourd'hui considéré comme une langue officielle. Le français, avec lequel vous avez grandi. Et puis l'anglais, que vous avez choisi, que vous traduisez. D'ailleurs, parler trois langues, quelle richesse est-ce que c'est pour l'écrivain que vous êtes ?
Oh, c'est une grande richesse d'image avant tout. C'est-à-dire que c'est comme une grande...
Vous voulez dire que chaque langue déploie des images différentes ?
Absolument, chaque langue déploie des images différentes qui se glissent dans la langue d'à côté. Alors ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup.
Est-ce que cela permet aussi de regarder une langue autrement, dans son génie ? Quel est pour vous le génie de la langue française, Yakuta Alika Vazovic ?
Le génie de la langue française, c'est avant tout, évidemment, sa littérature, à mon sens. Puis après, c'est un génie qui m'est intime, parce que j'ai aimé la langue française, je l'aime, c'est celle que je pratique, c'est celle dans laquelle j'écris. J'ai un rapport extrêmement proche et en même temps respectueux à cette langue-là.
Vous auriez pu écrire en anglais, par exemple ?
Oui, je pourrais, j'aimerais bien écrire de temps en temps. J'écris des petites choses en anglais, puis après je les cache.
Est-ce que le ton est le même ?
Non, le ton n'est pas du tout le même et je ne suis pas la même personne.
Ça, c'est passionnant.
Dans toutes ces langues, c'est fascinant pour mes proches et peut-être un peu flippant aussi.
C'est-à-dire qu'en serbo-croate, vous êtes comment ?
En serbo-croate, je suis la fille de mes parents. Je suis quelqu'un de beaucoup plus jeune que je ne suis. Il y a quelque chose de l'enfance qui s'est inscrite de façon durable pour moi dans cette langue-là.
En anglais ?
En anglais, je pense plus drôle. Je pense.
Et en français ?
En français, je sais pas. C'est la première langue maintenant. C'est la langue, j'ai envie de dire, de tous les jours, mais sans que ce soit banalisé, parce que c'est une langue qui est toujours là dans sa richesse.
L'Avancée de la Nuit, votre roman porte très bien son titre. Il a quelque chose de crépusculaire. On a du mal à percevoir les lueurs d'espoir. La nuit, à force d'avancer, elle finira bien par nous plonger dans les ténèbres. Non ?
Oh non, non, non. Non, vraiment, je pense que, vous savez, on dit que qu'est-ce qu'on dit ? On dit que la nuit est la plus sombre juste avant l'aube, juste avant le point du jour. Je pense qu'il y a toujours une lumière à l'horizon, sinon déjà, ce serait très triste, il n'y aurait plus aucune raison d'écrire, parce qu'il faudrait juste se rouler en boule sous un bureau. Donc non, et puis l'avancée de la nuit, enfin oui, c'est cette nuit inquiétante, mais c'est aussi une autre forme de nuit, c'est une nuit sensuelle et voluptueuse, puisque c'est un roman d'amour, l'avancée de la nuit. C'est le roman d'un amour... vous disiez, je ne sais plus ce que vous disiez, contrarié, et un petit peu comme ça, long, du coup, prolongé entre Paul et Amélia, qui sont très jeunes quand ils se rencontrent, et qui trouvent un moyen un peu romanesque, en fait, de faire durer cette histoire d'amour, puisqu'elle dure 30 ans, à force de se rater, de se manquer, de malentendus, comme dans les grandes histoires d'amour, ça commence par du malentendu, et en fait, ça devient la grande histoire d'une vie. Donc, c'est ce qui se passe pour ces personnages-là. C'est cette nuit-là aussi. C'est la nuit des amants, l'avancée de la nuit.
Vous dites que vous écrivez le matin, vous n'écrivez jamais la nuit ?
J'écris le matin, mais il fait encore nuit quand j'écris. Donc, pour certains, c'est encore la nuit, j'imagine.
Ouais. Parce que la nuit est propice pour beaucoup à la création et à la fiction. La nuit, je mens, comme disait Alain Bachung. Vous êtes sur France Inter avec Yakuta, Ali Kavazovic. Vous écoutez Boomerang.
On m'a vu dans le Vercors. Sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né à la station balnéaire, tu t'es pas fait prier. J'étais gant de crin, je zère. Pour un peu, j'ai trempé. Histoire d'eau. La nuit, je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit, je mens, je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. T'accaparer seulement, t'accaparer. D'estrade en estrade, j'ai fait danser tant de malentendus. Des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire. Dresseur de loulou, dynamiteur d'aqueduc. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, et effrontément. J'ai dans les bottes des montagnes de questions, où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore. On m'a vu dans le Vercors, sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions, où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho.
Morand sur France Inter. Augustin Trapenard.
Et dans la lueur rouge artificielle de ce matin d'hiver, il fait plus assez nuit pour que je me mette à vous mentir. Alors je vous dirai la vérité. Toute la vérité, rien que la vérité, on est sur une crinière indomptable. De sirène ou de reine de la mythologie. Un regard de braise à vous créer un départ de feu au beau milieu d'un lac. Un port de tête à faire tomber ou tourner les têtes. Croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en enfer. Pull camel, pure laine, pantalon gris foncé, bottines de châtelaine. La jeune romancière Yakuta Ali Kavazovic, invitée de Boomerang, ce matin pour l'avancée de la nuit. L'histoire d'un amour passionnel incandescent qui est peu à peu, quand même, gagné par les ténèbres. Et ce qui est fascinant, Yakuta, c'est que dès les premières pages de votre livre, on comprend que le monde est chargé d'une menace, que le monde a peur. Peur de quoi ?
Peur de ce qu'il est en train de devenir, je pense, d'une certaine façon. En fait, je me suis rendu compte que j'avais grandi, que les choses les plus simples ou compliquées, enfin, ou les plus personnelles de mon existence à moi, mes premières histoires d'amour, mes études, enfin tout, c'était beaucoup fait sur fond d'écran et sur fond d'écran qui montraient des scènes de destruction. Et c'est presque l'espèce de contexte qui ressurgit parfois au gré de l'actualité, auquel on pense par pic, mais qui en fait est là comme une espèce de ligne de basse et avec lequel il faut quand même tenter de vivre avec cœur et avec ferveur.
Et qui catalyse une peur constante, permanente.
Oui, je crois, ou c'est moi qui, en grandissant, en mûrissant, j'ose pas dire en vieillissant, qui devient de plus en plus peureuse, des choses, je crois qu'on est plus sensible à une peur contemporaine, une peur de l'insécurité, en fait. Je suis pas sûre que cette peur-là était aussi présente avant.
Alors qu'est-ce que vous faites, Yakuta Ali Kavazovic, pour votre sécurité ? C'est une phrase du livre.
Qu'est-ce que je fais, moi, pour ma sécurité ? Personnellement, moi, je sauvegarde mes textes oui. en plusieurs exemplaires pour ma sécurité et pour ma sérénité d'esprit. Mais il y a tout un nombre de choses qu'on fait pour sa sécurité sans même s'en rendre compte. Enfin, je sais pas. J'arrive pas à penser à des exemples puisque je me sens très en sécurité ici, mais il y a plein de choses.
Ce qui est intéressant, effectivement, c'est la façon dont vos personnages et votre narrateur plus particulièrement vont répondre à cette peur ambiante. Ils fabriquent des systèmes de sécurité hyper perfectionnés, alarmes, vidéosurveillance, mais aussi des chambres fortes où on peut se réfugier en cas de danger. De quoi ces espaces confinés, ces monuments secrets, ces tombeaux, comme vous les appelez, sont-ils le nom pour vous ?
Je pense qu'ils sont l'endroit où on se laisse aller à la peur. La peur, c'est quand même une passion assez triste. Hein. Mais encore une fois, ça double tranchant. C'est aussi très excitant, la peur. Enfin, on regarde des films qui font peur, on regarde des films d'horreur. Moi, ça m'arrive, je trouve ça assez délicieux, cette peur qui est pour rire. Donc, je pense qu'il y a un rapport un petit peu ambigu à la peur. Après, une pièce secrète, une pièce entre deux murs, comme celle que Paul se finit par installer pour vivre. Enfin, c'est son métier. J'avoue que j'aimerais bien en avoir une. Enfin, je trouve que ça parle aussi de quelque chose de l'enfance, des cachettes, des armoires secrètes comme ça, des lieux où on va se cacher du grand méchant loup. Donc, je pense que là aussi, il y a quelque chose d'un peu ambivalent et d'un peu gai, presque, paradoxalement.
Qui ne voudrait pas savoir ses enfants en sécurité ? Qui n'accepterait pas de payer le prix fort pour cela ? C'est par amour que nous équipons nos villes, nos rues et nos maisons, mais c'est le mal qui s'infiltre. C'est le mal et toutes nos erreurs viendront nous hanter. Elles viendront nous ronger le sommeil et les os. Nous vivons dans un monde qui a entièrement cédé à la brutalité et à l'injustice. Chacun pour soi. Chacun pour soi et ses propres enfants. Et pendant ce temps, le principe directeur du monde est devenu l'expulsion. Des familles à la rue, des villes rasées, des pays entiers contraints de prendre la route. Je regarde autour de moi et ce que je vois, c'est l'irruption de l'irréel dans le réel. Un extrait de l'avancée de la nuit, Yakuta Ali Kavazovic, l'irruption du réel dans le réel. Est-ce que l'irréel, à force de faire irruption, ne finit pas par se substituer au réel, justement ?
Oui, je pense que c'est l'une des questions auxquelles on est nombreux à réfléchir en ce moment. Et je pense aussi que ça renoue avec une tradition littéraire, celle dont on parlait en début d'émission, qui est celle du fantomatique, qui est celle du fantastique, parce qu'il y a beaucoup d'étranges absences qui deviennent des types de présence dans nos vies, qui passent par les écrans, qui passent par par les voix qu'on entend sur les ondes, qui sont toujours là pour nous accompagner. Et c'est vrai aussi que quand on pense réellement à ce qui se passe dans dans le monde, moi une incrédulité me saisit. Une incrédulité, c'est pas je me souviens quand j'étais enfant, quand on nous parlait du monde de demain, du monde du 21e siècle, on nous parlait de villes propres, de voitures volantes et de la paix dans le monde. Force est de constater que c'est pas exactement ce qu'on est en train de vivre, mais moi je perds pas espoir.
Un livre, qu'est-ce qu'il fait surgir dans le réel, pour vous ?
Un livre, ce qui fait surgir dans le réel, je pense que c'est avant tout une émotion. Avant tout, il fait résonner une note qu'on tient, qu'on garde avec soi. Avec un peu de chance, ça approfondit une émotion dont on ne se savait pas forcément capable. Et du coup, ça crée presque un espace interne, ça élargit nos horizons à l'intérieur.
Puis quelque chose comme de la beauté. Peut-être.
Ah oui, la beauté est essentielle, je pense.
Qu'est-ce que vous trouvez beau, vous, Yakuta Ali Kavazovic?
Tout, mais je trouve ça très beau de sortir et de voir le ciel. C'est quelque chose qui me ravit continuellement. Je m'efforce de chercher la beauté autour de moi. Ouais.
Yakuta Ali Kavazovic, je vous ai demandé de venir accompagner ce matin d'un objet pour terminer cette émission. Vous nous avez apporté votre bureau. Alors il faut nous le décrire parce qu'il est tout petit.
Oui, j'ai apporté mon petit bureau. C'est mon bureau en déplacement. Je ne sais pas si on l'entend là. C'est une petite boîte en fer blanc qui contenait à l'origine 40 grammes de bonbons de réglisse à la menthe italien Amarelli. C'est une boîte verte, en deux tons de vert. Et alors dedans, il y a... Je constate qu'il y a des brins de tabac, alors que j'ai arrêté de fumer il y a assez longtemps. Donc,
oui, les fantômes.
Donc voilà, il y a les fantômes des cigarettes passées. Ouais. Il y a une petite espèce de petite bille qui roule pas vraiment, mais qu'on peut faire tourner, que j'aime bien. Il y a une clé USB, puisque ma sécurité à moi, je vous disais tout à l'heure, c'est de sauvegarder. Donc voilà. Alors en ce moment, bon, j'ai pas vraiment commencé à travailler sur un nouveau livre, donc il y a des notes sur cette clé. Et puis il y a un truc que j'aime bien, c'est un petit jeton, c'est un jeton de casino.
Ah bah bravo.
Oui, que j'ai trouvé aussi en Italie. Alors il est en plastique ivoire, il y a 100 écrit dessus à l'or, et alors je l'aime beaucoup parce que comme je sais pas dans quelle devise c'est, ça peut valoir beaucoup comme ça peut valoir pas grand chose. Par exemple, comme il vient d'Italie, si c'est des lires, par exemple, j'ai regardé, ça fait moins de 10 centimes. Mais si c'est une autre devise, peut-être suis-je riche et je ne le sais pas.
Des dollars, peut-être.
Des dollars ou autre encore, qui
sait. Où est-ce que vous aimez le poser, votre bureau ?
Mon bureau, alors celui-là, il est en général dans ma poche, j'y suis attachée. Alors je le scotche pour pas qu'il s'ouvre, parce que la boîte est un peu brinque-ballante. Par ailleurs, bon, je dois dire que j'écris le mieux chez moi et que j'ai un vice impuni, pas secret, puisque je vais le dire, donc ce sera plus du tout un secret, mais c'est que j'écris sur un ordinateur vieux, très vieux, qui n'est jamais allé sur Internet. C'est une espèce de machine à écrire.
Elle est là, la résistance.
Contemporaine, voilà. Voilà l'endroit de la sécurité pour moi, c'est de pouvoir juste me concentrer tranquillement, sans vérifier mes messages, sans avoir des notifications. Voilà mon bureau dans la boîte est un représentant, est un petit fragment.
Merci infiniment, Yakuta Ali Kavazovic, d'être venu faire un tour dans Boomerang. Je rappelle que L'Avancée de la Nuit est publié aux éditions de l'Olivier et que c'est un très beau roman d'aujourd'hui. J'ai décidé cette semaine et la semaine prochaine de vous proposer, chers auditeurs, deux romans que j'aime infiniment. Le premier, c'est donc le vôtre. L'idée de Boomerang, c'est aussi de partager le plaisir de la lecture.
Merci beaucoup.
Tout de suite, les médias. Sonia De Villers, juste après ça.
Pick yourself up. Take a deep breath. Dust yourself off. Start all over again. Nothing's impossible, I have found. For when my chin is on the ground, I pick myself up, dust myself off, and start all over again.
Don't lose your confidence if you slip. Be grateful for a pleasant trip and pick yourself up, dust yourself off, and start all over again. Work like a soul inspired till the battle of the day is won. You may be sick and tired, but you'll be a man, my son. Will you remember the famous men who had to fall to rise again? So pick yourself up, take a deep breath, dust yourself off, start all over.